Sounou Assurance vous propose Priorité Santé et vous invite à respecter les gestes barrières pour préserver votre santé et celle de ceux qui vous sont chers. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. On retrouve derrière le terme de maladie auto-immune des affections extrêmement différentes qui peuvent avoir des conséquences tout aussi variables sur la qualité de vie des personnes concernées. L'ensemble de ces patients partagent en revanche une même crainte, celle de subir une nouvelle poussée de leur maladie, l'apparition de symptômes, de manifestations parfois au pluriel qui entraînent douleurs, gênes, grande fatigue et peuvent laisser des séquelles. Ces poussées imprévisibles ponctuent le quotidien des patients chroniques, en particulier pour la maladie qui nous intéresse aujourd'hui dans Priorité Santé, la sclérose en plaques, désignée communément par ses trois initiales, la SEP. En dehors des causes accidentelles, cette maladie du système nerveux central constitue le premier motif de handicap sévère chez les jeunes adultes. Ces symptômes varient d'une personne à l'autre et concernent davantage de femmes que d'hommes, près de trois fois plus. Une maladie caractérisée par des crises inflammatoires associées à un dérèglement immunitaire qui aujourd'hui se traite mais ne se guérit pas, dont la recherche tente encore de percer les mystères, notamment en ce qui concerne les origines précises. Une maladie qui nécessite souvent une prise en charge multidisciplinaire après l'annonce du diagnostic, acceptation, aménagement du quotidien, parcours de soins et avancée donc, espoir du côté de la recherche. Autant de sujets que l'on va aborder aujourd'hui avec nos invités. Et bien sûr, nous parlerons également des inquiétudes des patients concernés par la sclérose en plaques dans le contexte de crise sanitaire, de pandémie de Covid-19. En ligne avec nous de Marseille, professeur Jean Pelletier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de neurologie et maladies inflammatoires du cerveau et de la moelle épinière au CHU de la Timone et président du conseil médico-scientifique de la fondation ARCEP, fondation pour l'aide à la recherche sur la sclérose en plaques. Nous donnerons la parole à l'une de ses bénévoles qui est aussi patiente, Gwendoline Michenet, conseillère municipale déléguée au handicap dans la ville de Nanteuil-les-Maux. Et puis, nous retrouverons tout à l'heure en ligne du Sénégal le docteur Ndiaga Mataigai, neurologue à la clinique neurologique du centre hospitalier national universitaire de Fan, donc à Dakar.
Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, professeur Pelletier, dans le contexte de crise sanitaire, évidemment, toutes ces questions tout à fait légitimes que se posent les malades, les patients, surtout quand ils reçoivent déjà un traitement parfois lourd contre une autre affection, Covid et SEP. On va en parler dans quelques minutes, si vous le voulez bien, mais pour fixer les choses, parce qu'un certain nombre de nos auditeurs ont besoin d'abord d'être éclairés sur la nature même, la définition de cette maladie assez compliquée du système nerveux central. Peut-être commencer par expliquer des grandes lignes, le processus. Question toute simple, la myéline, qu'est-ce que c'est ?
La myéline, c'est la gaine qui entoure ce qu'on appelle dans notre jargon les axones, c'est-à-dire les prolongements des neurones qui sont en charge de transmettre l'information nerveuse, c'est-à-dire l'électricité. Et cette gaine de myéline, elle permet à l'axone de transmettre de façon très rapide et très régulière des informations qui vont être spécifiques en fonction de la topographie, c'est-à-dire du territoire qui est incriminé. Par exemple, l'information visuelle pour la vue, l'information concernant la motricité ou la sensibilité. Et cette myéline, dans cette maladie qu'on appelle la sclérose en plaques, elle est perturbée, voire détruite par des attaques inflammatoires qui sont assez imprévisibles et qui vont entraîner ce qu'on appelle de la démyélinisation, c'est-à-dire une perte de myéline qui va concourir à faire en sorte que la transmission de l'influx nerveux, l'électricité, ne puisse plus fonctionner de façon normale.
Alors, sclérose en plaques, professeur Pelletier, là aussi, le terme de plaque que l'on retrouve dans le nom de la maladie auto-immune, qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, ça correspond aux lésions inflammatoires qui vont toucher le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau, la moelle épinière et le nerf optique. et ces plaques, ces lésions inflammatoires vont intervenir de façon un petit peu imprévisible, c'est-à-dire avec une notion de d'imprévisibilité dans le temps, et puis aussi une notion d'imprévisibilité concernant les territoires qui seront touchés. Ce qui explique que dans cette maladie, les poussées vont se succéder de façon, encore une fois, imprévisible à la fois à un moment donné, mais aussi à un endroit donné. Donc les symptômes vont être parfois extrêmement variables, hein, des troubles de la vue, des troubles de la sensibilité, de la motricité, qui vont être liés à la localisation de la lésion. Et ce qui fait un petit peu la difficulté, tant concernant le diagnostic que l'évolution de cette maladie, c'est ce côté imprévisible faire qu'un patient qui va parfaitement bien va déclencher une poussée de façon très rapidement progressive dans un endroit particulier qui va entraîner donc des symptômes en rapport avec la topographie de la lésion.
Est-ce que ça veut dire que parfois certains patients découvrent en quelque sorte leur maladie par hasard ?
Totalement, c'est tout à fait exact. On connaît dans notre domaine un terme bien particulier qui s'appelle le syndrome radiologiquement isolé, qui peut, lors d'un examen d'imagerie par IRM, faire découvrir la sclérose en plaques, alors que la personne n'a pas, en tout cas, présenté de symptômes très pertinents qui puissent amener à faire le diagnostic. Donc, cette maladie nous pose un problème, c'est que très probablement, dans une très grande majorité des cas, lorsque le diagnostic est établi, après une première poussée, après de premiers symptômes, eh bien, on s'aperçoit sur l'IRM qu'il existe déjà des lésions qui sont plus anciennes et qui nous font penser que le diagnostic de la maladie, d'un point de vue clinique, ne correspond probablement pas au début réel de la maladie.
Et pourtant, est-ce qu'il faut agir au plus vite ? Parce qu'il y a une question en toile de fond, c'est est-ce que toutes les scléroses en plaques sont forcément évolutives, professeur ?
Alors, elles sont pas toutes forcément évolutives, mais les données dont nous disposons depuis une bonne dizaine d'années nous font clairement penser que dès que le diagnostic est fait, il faut intervenir rapidement pour mettre en route un traitement qu'on appelle un traitement de fond. Ces traitements de fond vont permettre de bloquer la réaction inflammatoire qui est justement imprévisible et faire en sorte que les poussées diminuent ou disparaissent. En agissant sur la fréquence des poussées, on va agir de façon inévitable sur les conséquences de ces poussées, c'est-à-dire sur l'éventualité de garder des séquelles et sur l'éventualité d'être dans un niveau de handicap qui est lié aux cicatrices de ces poussées. Et on a bien compris depuis quelques années que la mise en route d'un traitement de fond précoce, dès le début de la maladie ou dès le début du diagnostic de la maladie, impactait de façon très importante l'évolution ultérieure de la maladie, bien sûr en termes de fréquence de poussée, puisque le but de ces traitements sont de bloquer l'inflammation, donc d'éviter les poussées, mais aussi en termes de conséquences des poussées, c'est-à-dire en termes de cicatrices et de handicap. Et un traitement utilisé de façon précoce va impacter l'état clinique des patients atteints de sclérose en plaques à 10 ans, 15 ans. Pour l'instant, on en est là, puisque ces traitements ont une vingtaine d'années de recul, mais il est fort probable que dans les années à venir, on confirme le fait qu'un traitement précoce va limiter l'évolution de la maladie et donc limiter l'éventualité d'un handicap.
On comprend bien, on ne guérit pas, on freine, on essaye de bloquer. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, l'actualité du Covid-19 et de la SEP, professeur Pelletier, comment les neurologues ont-ils communiqué avec les patients ? J'imagine qu'il y avait énormément de questions, même de craintes sur les risques associés à leur maladie face à l'infection.
Tout à fait. Deux grandes questions au début de l'épidémie, partagées à la fois par le corps médical et bien sûr les patients. La première question était de savoir si, dans le cadre d'une maladie auto-immune, avec un dérèglement des défenses immunitaires, il existait un sur-risque de présenter des formes plus graves de Covid. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, à partir du moment où nous utilisons des traitements de fond qui ont un effet anti-inflammatoire, avec globalement des caractéristiques de médicaments de type immunosuppresseur, eh bien la deuxième question était de savoir si ces traitements de fond avaient eux-mêmes un impact éventuel sur un sur-risque de forme plus grave de Covid.
Et les réponses ?
Les réponses, elles sont très simples, avec trois études qui ont été menées en France, aux États-Unis et en Italie, avec des registres qui ont permis de suivre des patients atteints de sclérose en plaques qui ont contracté le Covid-19. Sur la première question, aucun risque supplémentaire lié à la maladie. Pas plus de complications ni de formes graves, ça c'est très clair. Sur la deuxième question, les choses sont un peu plus mitigées. La majorité des traitements de fond qui sont utilisés n'impactent pas l'éventualité de formes plus graves de Covid, en dehors d'une classe de médicaments qui est utilisée parce que très efficace dans cette maladie. Il s'agit d'un anticorps monoclonal dans une classe qu'on appelle les anti-CD20, qui a montré un petit signal pour penser que sous ce traitement, les patients atteints de sclérose en plaques qui contractaient le virus risquaient de faire des formes plus graves.
Du coup, est-ce qu'il y a une troisième injection de vaccin anti-Covid qui est recommandée aux patients traités par ce type d'immunomodulateur ?
Alors, dans l'ensemble des patients atteints de sclérose en plaques non traités, non. Mmh. Hein, deux injections suffisent. Dans la situation des patients traités, dans la majorité des traitements dont on vient de parler, qui n'impactent pas l'éventualité de faire des formes plus graves, on reste sur deux injections, en dehors de la classe de ce médicament que j'ai évoqué, les anti-CD20, pour lequel une recommandation de troisième injection de vaccin est actuellement bien en place.
Alors, des questions justement, je voudrais me tourner vers notre témoin patiente et en même temps experte, Gwendoline Michenet, bonjour.
Bonjour.
Bénévole à la Fondation ARCEP, j'imagine que ces questions en tant que patiente, vous les êtes posées il y a un an. Est-ce que vous étiez inquiète ?
Alors effectivement, moi j'étais inquiète, mais pour deux choses différentes, parce qu'effectivement, moi je suis sous immunosuppresseur, au début de l'épidémie, je n'avais plus de traitement puisque je devais changer de traitement. Mmh. Et moi, je fais partie, en fait, je suis un dommage collatéral du Covid puisque j'aurais dû prendre un traitement au début de l'épidémie, mais étant donné que les hôpitaux étaient saturés, j'ai dû retarder ma prise de traitement puisque le premier cachet devait se prendre à l'hôpital et ce qui m'a enclenché deux nouvelles lésions au niveau du cerveau à ce moment-là.
Ça a été retardé à cause du risque infectieux. Gwendoline Michenet, pour revenir à votre expérience personnelle, votre parcours, dans quelles circonstances est-ce que vous avez pris connaissance de ce diagnostic de sclérose en plaques ?
Alors, octobre 2013, je suis victime d'une intoxication alimentaire et je perds la vue d'un œil du jour au lendemain. Donc après, tout de suite, hôpital, scanner, IRM, et là, j'apprends que j'ai 4 lésions dans le cerveau, et quelques jours après, le diagnostic de la sclérose en plaques tombe.
Vous connaissez le mot à ce moment-là, SEP, sclérose en plaques, ça vous dit quelque chose ?
Ça me dit quelque chose, j'en ai déjà entendu parler, mais je ne connais pas la maladie.
Vous conservez des souvenirs, des émotions à ce moment très particulier, quand on vous dit justement le nom d'une maladie, on en a peut-être entendu parler dans les médias, dans l'entourage lointain, mais là c'est un médecin qui dit que c'est vous qui devenez cette patiente.
Alors j'ai des vagues souvenirs, mais je me dis, bon d'accord, maladie auto-immune, elle est là, j'ai pas le choix. Maintenant, il va falloir que je me batte, j'ai pas le choix.
Est-ce que, d'une certaine manière, vous avez bénéficié d'une intuition d'un médecin qui a dit qu'il faut faire spécifiquement ce type d'examen, ou finalement c'était dans un parcours tout à fait ordinaire de recherche de diagnostic ?
Je pense que je suis tombée sur les bons médecins pour avoir le diagnostic le plus rapidement possible.
Professeur Jean Pelletier, pour revenir à cette question essentielle des premiers symptômes, on peut parler d'instinct, d'intuition, il y a les examens. Est-ce que l'on sait en moyenne dans un pays comme la France, le temps qui sépare les premiers symptômes, même si encore une fois c'est difficile de les désigner clairement, du diagnostic ? Et est-ce qu'il y a un examen qui permet de poser ce diagnostic ? On sait que pour certaines maladies, notamment infectieuses, il y a des tests sanguins, là c'est coup sûr, on a le bon résultat. Est-ce que c'est pareil pour une maladie très complexe comme la sclérose en plaques ?
Oui, tout à fait. Alors le délai entre comment dire les premiers symptômes et le diagnostic de la maladie, il est très dépendant bien sûr de la connaissance que peuvent avoir les médecins des symptômes inauguraux de la maladie, hein, qui sont le plus fréquemment des troubles visuels, comme ça a été dit, des troubles de la sensibilité ou des troubles de la motricité. Un examen permet effectivement de faire le diagnostic très rapidement, hein, c'est l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, qui permet de visualiser ces fameuses lésions inflammatoires et de, comment dire, dans une certaine mesure, de valider le diagnostic de la maladie avec des critères diagnostiques qui sont parfaitement établis. Alors le recours à l'IRM étant de plus en plus rapide et de plus en plus fréquent, on a un certain nombre de données qui nous font penser que le diagnostic maintenant, en 2020-2021, est fait de façon beaucoup plus rapprochée par rapport aux premiers symptômes, ce qui permet d'en faire un diagnostic plus précoce et, comme on l'a dit tout à l'heure, d'envisager un traitement le plus précocement possible.
Intervenir au plus tôt, combien de personnes concernées en France aujourd'hui par la sclérose en plaques ?
Actuellement 120 000 personnes.
Est-ce qu'il y a des cas très précoces chez l'enfant ?
Tout à fait. Et d'ailleurs, les données épidémiologiques nous... Alors, peut-être que le fait de faire le diagnostic plus précoce peut, dans une certaine mesure, expliquer cette augmentation de fréquence de la maladie.
Un meilleur dépistage, enfin, on va dire.
Un meilleur dépistage. Le deuxième élément dont on dispose quand même, c'est que, comme la majorité des maladies auto-immunes, les formes précoces, c'est-à-dire avant l'âge de 18 ans, semblent augmenter en termes de fréquence. Et il n'est pas rare de faire le diagnostic de sclérose en plaques chez des enfants ou chez des adolescents.
Alors, vous disiez tout à l'heure l'IRM déterminant essentiel pour le diagnostic, mais on va voir bien sûr que l'accès à cet examen de haute technologie n'est pas aussi accessible partout sur la planète. On ira au Sénégal et on aura justement un témoignage édifiant de l'un de vos confrères à ce sujet, professeur Jean Pelletier, Gwendoline Michenet. On va se retrouver hein, pour donner la parole justement à votre confrère tout à l'heure, le docteur Guy, juste après ce titre de Dobé Gnaoré et Yakané. Priorité santé sur RFI, nous parlons aujourd'hui de la sclérose en plaques. Toujours deux invités en ligne avec nous. De Marseille, le professeur Jean Pelletier, chef du service de neurologie et maladies inflammatoires du cerveau et de la moelle épinière au CHU de la Timone, président du conseil médico-scientifique de la fondation ARCEP, au sein de laquelle est bénévole Gwendoline Michenet, aujourd'hui conseillère municipale déléguée au handicap à Nanteuil-les-Maux. De nouvelles responsabilités pour vous, Gwendoline Michenet, parce que la maladie a bouleversé votre parcours, notamment sur le plan professionnel.
Oui, complètement. Effectivement, j'étais chef de rayon. Et du jour au lendemain, chef de rayon et sclérose en plaques ne vont pas ensemble. Donc, j'ai été licenciée pour inaptitude médicale.
Sur certificat, comment ça s'est passé? C'est qu'on a observé chez vous des difficultés au quotidien, par exemple dans le fait de rester debout, dans la mobilité, ou c'est vous-même par fatigue, par épuisement ou parce qu'il fallait s'arrêter tout simplement, qui avez renoncé d'une certaine manière à cet emploi?
La première année de mon diagnostic, effectivement, j'ai surtout été touchée au niveau des membres inférieurs et les membres supérieurs. Et la médecine du travail, lors de ma visite avant ma reprise, m'a dit que de toute manière, je ne pouvais pas reprendre mon métier. Donc j'ai été déclarée inapte au poste de chef de rayon.
Vous êtes restée sans emploi ?
Je suis restée sans emploi pendant 2 ans. Puisque sclérose en plaques et métier, ça fait peur. C'est une maladie encore très peu connue, donc les employeurs ont peur d'embaucher quelqu'un ayant une sclérose en plaques. Donc j'ai eu pas mal de refus et j'ai fait très rapidement ma reconnaissance en qualité de travailleur handicapé pour faire bénéficier les employeurs de diminution de charges sociales.
Justement, ce terme de handicap, c'est pas toujours quelque chose de facile à prononcer, à intégrer quand on a 30 ans encore plus, on va dire. Et dans votre cas, vous étiez une jeune maman. Aujourd'hui, vous l'assumez, ce mot handicap, ou pas encore?
Alors, je l'assume en tant qu'handicap invisible. Moi, je l'assume, mon entourage l'assume aussi. C'est le regard des autres qui est plus difficile. Parce que quand on parle d'handicap, beaucoup de gens pensent fauteuil roulant, canne, mais il faut savoir que le handicap peut aussi être invisible et la fatigabilité en fait partie.
Concrètement, aujourd'hui, vous êtes debout?
Je suis debout et je resterai debout au maximum.
j'aime bien entendre ça, hein. Vous tenez tête et vous évoquez ouvertement, je comprends bien qu'on ne se résume pas à sa maladie, on ne se résume pas à son handicap. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez par exemple avec des gens que vous ne connaissez pas de longue date, ou vous gardez ça pour vous, pour la famille, pour votre médecin? C'est votre terrain purement personnel?
Ah, pas du tout. J'assume complètement avoir une sclérose en plaques et j'utilise toujours une phrase qui fait rire, c'est-à-dire que il faut savoir que je ne vis pas avec la maladie, c'est la maladie qui vit avec moi. C'est-à-dire que c'est pas la sclérose en plaques qui va me dire « aujourd'hui tu vas rester couché ».
Vous le chef.
Je vais mettre le pied par terre, voilà, c'est moi le chef.
Professeur Jean Pelletier, est-ce que cette question, vos patients vous la posent? Est-ce que je dois parler de ma sclérose en plaques? Est-ce que je dois le cacher à l'entourage, à mon patron, à mes collègues?
Bien sûr, c'est une maladie qui, ça a été dit, entraîne des symptômes qui sont invisibles, et ces symptômes-là, ils sont pas obligatoirement partagés par l'entourage, et encore moins d'ailleurs par l'entourage professionnel. Être fatigué, avoir des troubles sphinctériens urinaires, par exemple, ce sont des choses qui peuvent impacter la vie de tous les jours et qui sont pas obligatoirement visibles. Avoir des troubles de la marche, ça a une certaine visibilité pour l'extérieur. Être fatigué et se plaindre de fatigue, c'est beaucoup plus subjectif et c'est souvent beaucoup moins compris. Et on est souvent confronté à des interrogations de la part des patients, des interrogations de la part de l'entourage aussi, qui a bien du mal à se positionner par rapport à, comme ça a été dit, à ces troubles invisibles, mais qui sont gênants dans la vie de tous les jours. Moi, j'aime beaucoup l'expression « c'est moi le chef », parce que c'est vrai que on a, d'un point de vue médical, cette sensation qu'il faut pas que la maladie prenne le dessus, ça c'est une chose, Et puis on essaie de rester très positif aussi dans le message. On a dit tout à l'heure que le diagnostic pouvait être fait de façon très précoce, que la mise en route d'un traitement pour bloquer cette fameuse réaction inflammatoire pouvait aussi être débutée de façon très précoce. Donc le message qu'on essaie de faire passer, c'est continuer à vivre le plus normalement possible et essayer de trouver des adaptations par rapport à ce qui peut vous gêner. Ce qui peut être visible, mais ce qui peut être aussi beaucoup moins visible et qui peut retentir sur votre vie de tous les jours.
Et il y a l'importance des mots. Être handicapé, ce n'est pas être invalide.
Non, c'est pas invalide. Et puis le handicap, c'est qu'un mot dont la mesure peut être très différente d'une personne à l'autre. On vient de le dire. C'est vivre avec cette maladie. Pas tant au sens du retentissement de la maladie, c'est essayer de la contrôler pour vivre le plus normalement possible.
Gwendoline Michenet, sur le plan personnel, familial, est-ce que vous avez dû renoncer à certaines choses ? Tout à l'heure, on a bien entendu, vous avez perdu votre emploi, vous vous êtes renouvelé, réinséré en vous engageant notamment pour cette question du handicap. Sur le plan familial, ça a changé des choses ?
Pas spécialement changé de choses sur le plan familial, car j'ai demandé à ma famille de me considérer toujours comme la même personne, de pas s'apitoyer sur mon sort, parce que c'est quelque chose que je n'aurais pas supporté. Ça a eu des incidences par contre sur le petit garçon qui, au moment du diagnostic, donc avait 1 an, et a eu ce qu'on appelle un choc émotionnel, qu'il a arrêté de marcher du jour au lendemain.
Parce que vous parliez, parce que bien sûr, j'imagine qu'à la maison, quand on rentre après ce type de diagnostic, on ne fait pas semblant, hein, c'est la vie qui est là, c'est la peine qui peut aussi, et les émotions qui sont là, et il y a eu un retentissement sur sa propre évolution.
Tout à fait, oui. Complètement. Donc il a été suivi très très rapidement par une pédopsie et je ne lui ai jamais rien caché sur la maladie, mais il a tendance, du haut maintenant de ses 8 ans, à être très très protecteur avec moi.
Il essaie de vous surveiller, de vous protéger, il sort un petit peu de son rôle.
Tout à fait, oui.
Professeur Jean Pelletier, bien sûr, vous êtes neurologue, hein, c'est de la médecine dure, si on peut dire, mais face à ce type d'atteinte, ça bouleverse les projets. Le médecin ne se contente pas de parler des neurones et des traitements.
Non, d'autant que c'est une maladie qui implique de nombreux acteurs. Bien sûr que le neurologue est un petit peu au centre, à la fois pour le diagnostic et les traitements, mais un certain nombre de symptômes font appel à d'autres spécialités qui sont parfois extrêmement importantes. Et donc c'est un travail d'ensemble. On parle souvent de prise en charge pluridisciplinaire, hein, avec plusieurs disciplines. C'est extrêmement important. Et un point particulier à signaler en France, cette prise en charge pluridisciplinaire, elle a été très vite mise en place. Avec notamment la création de réseaux de soins dédiés à la sclérose en plaques, hein, des réseaux régionaux qui sont en place dans toutes les régions françaises. Et puis un petit peu plus tard, ce qu'on appelle des centres de référence ou des centres experts sur la sclérose en plaques. Tout ça, ça a cimenté une prise en charge qui n'est pas que consacrée à la neurologie, mais est consacrée à l'ensemble des spécialités et des acteurs, pas obligatoirement médical d'ailleurs, paramédicaux, des acteurs qui vont être extrêmement importants dans la prise en charge de la maladie, à la fois sur les symptômes qui sont visibles d'ailleurs, mais aussi sur les symptômes invisibles.
Est-ce qu'il y a des patients qui arrivent dans votre cabinet peu de temps après le diagnostic et qui vous posent une question très dure, très crue ? Combien de temps encore je pourrais marcher ? Qu'est-ce que vous leur dites ?
C'est très fréquemment une question qui est posée parce que la sclérose en plaques a encore cette étiquette assez péjorative du fauteuil roulant notamment. Donc lorsque les personnes sont au début de leur maladie, essaient d'obtenir des informations sur la maladie, la grande porte ouverte de l'information, c'est souvent Internet, c'est les réseaux sociaux.
Pour le meilleur et pour le pire.
souvent pour le pire, parce que sur les réseaux sociaux, sur les blogs de conversation notamment, s'expriment très souvent des personnes qui ont une expression péjorative de la maladie, peut-être parce qu'elles sont en souffrance.
Ça veut dire que dans le langage courant, les formes les plus graves ?
Peut-être parce que c'est une forme grave, peut-être parce que les traitements sont moins efficaces. Donc des éléments négatifs transparaissent très vite et les éléments négatifs sont souvent associés effectivement aux troubles de la marche et à la perte de la marche. Alors nous, en tant que neurologues, on est c'est très embêtant de répondre à cette question parce qu'il faut savoir que cette maladie évolue de façon tout à fait individuelle. Il y a des formes très bénignes de la maladie avec des personnes qui ont 20 ans, 30 ans de recul, aucun traitement et qui vont parfaitement bien. Et il y a des formes très agressives de la maladie avec des personnes qui, après quelques années d'évolution, présentent effectivement un handicap. Et actuellement, on ne dispose pas de marqueurs prédictifs très précis pour pouvoir répondre à cette question, de considérer que pour une personne qui vient d'être diagnostiquée, on a des éléments plutôt défavorables ou favorables. Alors, il y a quand même un élément sur lequel on peut s'appuyer, on en a déjà parlé, c'est traiter tôt et bloquer l'activité inflammatoire de la maladie, éviter les poussées, éviter les conséquences de ces poussées. Et pour répondre à votre question, effectivement, cette question, elle est posée. Mais j'ai le sentiment qu'au fur et à mesure des années, elle est moins souvent posée, probablement parce qu'il y a une meilleure information objective sur la maladie, et puis aussi parce qu'il y a une meilleure implication du patient vis-à-vis de sa prise en charge, avec le concept que on est très armé d'un point de vue thérapeutique pour que cette maladie s'arrête d'évoluer, en fait.
Gwendoline Michenet, aujourd'hui justement, votre prise en charge, traitement, rééducation, combien de séances par semaine, des consultations, ça s'organise comment ?
Alors c'est donc c'est une séance de kiné par semaine, une séance d'ostéopathe par semaine. Je fais des petites, je vois l'orthoptiste aussi, parce que la fragilité des yeux reste présente, due à la poussée qui m'a permis le diagnostic. Le neurologue une fois par an, et puis kiné une fois par semaine, ostéopathe une fois par semaine.
Des injections, des cachets ?
Cachets tous les jours.
Cachet tous les jours. Professeur Jean Pelletier, sur cet aspect de la prise en charge, qu'est-ce que vous pouvez ajouter ? Il peut y avoir aussi un appui psychologique ?
Bien sûr. Encore une fois, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Comme l'a dit Madame Michenet, les kinésithérapeutes sont extrêmement importants, les ophtalmologues sont importants, les spécialistes de l'urologie sont importants. Et puis l'aspect psychologique, il est, j'ai envie de dire, fondamental. Lorsqu'on est en situation de fragilité psychologique, un certain nombre d'aides peuvent être extrêmement importantes, aussi importantes que certains traitements d'ailleurs. Les techniques de relaxation, les techniques de meilleure connaissance de soi-même, comme la sophrologie par exemple, ont leur importance. Bien sûr qu'il y a les traitements qui sont là pour essayer de bloquer cette activité inflammatoire, mais sur les symptômes, comme ça a été dit, avec le kinésithérapeute par exemple, l'orthoptiste, eh bien, il ne faut pas négliger l'aspect psychologique. Il faut retenir que nous sommes dans le cas d'une maladie dite auto-immune, comme d'autres, et ces maladies auto-immunes ont une sensibilité probablement plus importante que d'autres maladies à des facteurs psychologiques. Il n'est pas rare de rencontrer des personnes atteintes de sclérose en plaques qui font une poussée dans les suites d'un facteur émotionnel, un décès par exemple, un divorce. Alors c'est pas le divorce ou le décès qui est responsable de la poussée, c'est un ensemble de facteurs de prédisposition qui vont faire qu'à ce moment-là, le facteur psychologique va avoir un impact négatif pour déclencher une réaction inflammatoire, pour déclencher une poussée. Donc renforcer simplement l'aspect psychologique qui permet d'être plus fort ou en tout cas plus résistant, c'est une chose qui est à mon sens extrêmement importante.
Gwendoline Michenet, si vous regardez aujourd'hui après ces années de cohabitation avec la maladie, on a bien compris, c'est vous qui avez la main quand même malgré tout, vous sentez comment ?
ça va. Je pense que je me suis habituée à elle et j'arrive mieux à la gérer qu'au moment du diagnostic.
Gardez-la bien à la porte, en tout cas. Hein. Restez ferme là-dessus.
Gwendoline
Michenet, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Professeur Jean Pelletier, sclérose en plaques qui ne touche pas la population de la planète de manière uniforme. Au début d'émission, je parlais d'une prévalence plus importante chez les femmes. Et puis, il y a aussi sur la planète, et même si on regarde la géographie de la France, d'une région à l'autre, la distribution de la maladie n'est pas la même. Est-ce que l'on sait pourquoi certaines populations, certaines régions sont davantage concernées ?
Alors, il y a probablement deux grandes raisons, qui d'ailleurs sont les raisons évoquées sur la connaissance des causes de la maladie. La première, c'est ce qu'on appelle des facteurs de susceptibilité génétique. Alors attention, dire susceptibilité génétique ne veut pas dire héréditaire. Oui. Ça n'est pas une maladie héréditaire, mais c'est une maladie comme toutes les maladies auto-immunes, où notre patrimoine génétique et son organisation va avoir une importance pour le déclenchement de la maladie. C'est pas un gène qui est anormal, c'est pas un chromosome qui est anormal, c'est une organisation générale de notre patrimoine génétique qui va être plus ou moins sensible à d'autres facteurs pour déclencher cette fameuse réaction auto-immune. Donc certaines régions, par exemple, ont ce qu'on appelle nous une prévalence importante, c'est-à-dire une fréquence importante de la maladie, vraisemblablement pour des facteurs de prédisposition génétique qui sont particuliers. Le deuxième grand cadre, c'est les facteurs d'environnement. C'est-à-dire que un certain nombre de facteurs qui sont dans notre environnement naturel, si on peut dire, vont trouver à leur goût ce terrain génétique prédisposé pour enclencher cette fameuse réaction auto-immune. Alors on a un certain nombre de pistes, beaucoup de choses ont été travaillées, ont été évaluées, et sur l'aspect géographique de la distribution de la maladie, eh bien le fait qu'elle soit plus fréquente dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, fait penser qu'il y a une relation, notamment avec l'ensoleillement. Et on a un certain nombre de pistes. Alors, c'est pas le taux de vitamine D qui est important pour protéger ou pour, au contraire, influencer l'apparition de la maladie. C'est un certain nombre de récepteurs qui sont liés à la vitamine D, qui font partie des facteurs de susceptibilité génétique. Mais très probablement que l'environnement, au sens de l'ensoleillement, a un impact, alors qui peut être soit négatif dans les pays à faible ensoleillement, soit positif en termes de protection dans les pays à fort ensoleillement.
Alors justement, on va aller vers une région à fort ensoleillement. Hein. On va voir notamment ce qui est proposé en termes de prise en charge de la sclérose en plaques dans un pays comme le Sénégal.
RFI à Dakar, 92 FM.
Et on vous retrouve, docteur Ndiaga Matargaï, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes neurologue à la clinique neurologique du Centre hospitalier national universitaire de FAN, donc Dakar. Ces diagnostics de sclérose en plaques, docteur, est-ce que c'est quelque chose de fréquent ou encore de très rare dans un service de neurologie comme le vôtre à FAN ?
Merci beaucoup de nous avoir associés à cette émission. À vrai dire, au fait, en neurologie, on reçoit les malades quand même assez tard, puisqu'au fait, nos malades ont un itinéraire thérapeutique assez particulier. Pourquoi ? Parce qu'au fait, au Sénégal, actuellement, il y a un seul service de neurologie, et puis au fait, il y a un deuxième qui est juste en émergence. Donc, au fait, tous les malades que nous recevons ont déjà vu des médecins généralistes. Donc, au fait, tous ces malades vont venir consulter en neurologie à un stade quand même tardif, au stade de paraparésie, tétraplégie, avec des signes sensitifs vraiment très
avancé.
Alarmant,
oui, par rapport à ce que disait tout à l'heure, par exemple, le professeur Pelletier, là, on a vraiment des gens qui sont déjà en situation de grande invalidité, ce retard de diagnostic. Ça s'explique aussi par peut-être le manque, vous disiez, le manque de ressources humaines, de médecins fermiers, mais aussi de moyens d'accès à des examens fiables pour établir les diagnostics.
Effectivement, j'en venais à ça, effectivement, tous ces malades que nous recevons, déjà sur le plan clinique, on s'oriente vers une éventuelle sclérose en plaques, mais pour faire juste l'IRM encéphalique et médulaire, ça pose également problème. Pourquoi ? Parce qu'au fait, ce sont des malades qui ont déjà dépensé beaucoup d'argent par rapport à cette maladie chronique, et donc au fait, qui ont des soucis financiers pour se payer au fait une IRM encéphalique pour pouvoir poser le diagnostic. Et même si même quand le diagnostic est posé, et au fait, si le malade vient lors d'une poussée, c'est vrai, sur place, nous avons la méthylprednisolone, nous avons la prednisone qui sont
des corticoïdes.
Voilà, des corticoïdes. Mais évidemment, nous avons la rééducation à côté. Mais sauf que ce qui fait défaut, c'est surtout le traitement de fond, qui n'est pas du tout disponible au Sénégal. Et pour ceux qui ont des contacts dans des pays occidentaux, c'est que ça coûte quand même excessivement cher.
Donc, un vrai problème d'accès. Est-ce que la population, nous, on va dire en Europe, de plus en plus de gens ont entendu parler de cette maladie bizarre, hein, la sclérose en plaques. Il y a un certain nombre de personnes connues dans les médias, dans la culture, au cinéma, qui ont pu être atteintes. Est-ce que vous, les gens, la population, connaît la maladie ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Au fait, déjà, on n'a pas cette culture de maladie chronique du sujet jeune. Donc, du coup, c'est tout simplement que cette maladie touche presque électivement le sujet jeune. Ça pose déjà un problème d'acceptation, premièrement. Deuxièmement, au fait, il faudrait également que les médecins généralistes et les neurologues pense très souvent à cette maladie, parce que, comme vous le savez, les premiers signes ne sont pas spécifiques à la maladie. Le plus souvent, il s'agit de signes sensitifs, de signes oculaires, de signes visico-sanitaires. Donc, dans ce sens, il faudrait également pousser les médecins généralistes, les neurologues, à penser à cette maladie qui, diagnostiquée très tôt et prise en charge très tôt, peut éventuellement diminuer au fait le taux d'handicap que nous observons chez ces malades jeunes.
Y compris, docteur Guy, quand on ne dispose uniquement que de corticoïdes pour attaquer la maladie, quand on n'a pas de traitement de fond, ça peut quand même améliorer le pronostic pour le patient ?
Oui, le pronostic, mais c'est surtout au fait le pronostic à la phase aiguë. Parce qu'au fait, diminuer la durée de la poussée, diminuer la gravité de la poussée, au fait, a un impact sur l'évolution ultérieure de la maladie. Donc, comme nous avons ce traitement, nous faisons de notre mieux pour recevoir les malades à la phase aiguë, pour éventuellement diminuer l'inflammation, mais également en profiter pour faire un diagnostic de certitude et pouvoir à la suite accompagner, informer, aider aussi bien le malade, mais également ses aidants.
Contenir un maximum les séquelles, on l'a bien compris, une maladie qui n'est pas très très connue. Docteur Guy, un dernier message justement, peut-être même au pouvoir public, des maladies encore rares, mais des maladies qui peuvent toucher les jeunes, ça coupe justement l'espoir, ça coupe l'arrivée vers un métier, même des fois même pour des étudiants. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Comment est-ce qu'on peut améliorer le quotidien de ces patients?
Au fait, déjà que là, actuellement, nous subissons ce qu'on appelle un double fardeau. Parce que les maladies transmissibles sont encore présentes. Et là, on voit qu'avec l'avènement de la nouvelle technologie, on arrive quand même à poser des diagnostics qui jusque-là, au fait, étaient considérés comme des maladies rares, etc. Alors qu'en réalité, il s'agit plutôt de maladies méconnues puisqu'au fait, les moyens du diagnostic n'étaient pas là. Donc, face à ce double fardeau, il faudrait combler le déficit en ressources humaines. Parce que quand il n'y a pas un neurologue dans une région, en fait, on a tendance à dire que ces maladies neurologiques n'existent pas. Donc, en fait, il y a un biais par rapport à l'épidémiologie de certaines maladies, surtout en Afrique et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Donc, premièrement, il faudrait former plus de neurologues et éventuellement les répartir dans toutes les régions du Sénégal. Deuxièmement, rendre disponible l'IRM cérébral et médulaire, et ensuite faire de telle sorte que le traitement à la phase aiguë, mais également à la phase tardive, notamment le traitement de fond, soit disponible dans toutes les structures sanitaires.
Plus formé, mieux équipé, en toile de fond, hein, docteur Guy, on le dit, on le redit, la couverture santé universelle. Sans ça, les malades chroniques ne peuvent pas se soigner correctement. C'est impossible financièrement. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Très bonne journée au Sénégal, professeur Jean Pelletier. On aborde la conclusion de notre émission. On perçoit bien le grand écart en termes de possibilités, en termes d'outils diagnostiques, de traitements. Alors forcément, on regarde du côté de la recherche, là aussi, il y a d'énormes attentes. Tout à l'heure, vous disiez, professeur Pelletier, qu'on en savait plus sur les origines de la maladie, même s'il reste énormément à découvrir. Les espoirs pour les patients aujourd'hui, c'est quoi ?
Alors, le premier espoir, je dis pas qu'il est atteint, mais il est en partie atteint, c'est de bloquer l'évolution de la maladie dès le début de cette maladie, avec les traitements de fond dont on vient de parler. Le deuxième espoir qu'il a est en attente, si on peut dire, beaucoup d'équipes de recherche travaillent sur cet aspect-là, c'est d'essayer de réparer les lésions liées à la maladie. Hein, lorsque les poussées interviennent, bien, on l'a dit tout à l'heure, ce sont des lésions inflammatoires dans le cerveau ou dans la moelle épinière. Et si ces lésions inflammatoires restent en place, ne serait-ce que de façon partielle, elles peuvent entraîner des cicatrices et donc des séquelles et donc un handicap. Alors il y a beaucoup d'attentes sur des techniques, on parle souvent de remyélinisation, c'est-à-dire de réparation de la myéline, ou des techniques de neuroprotection, dont le but n'est pas d'agir sur l'inflammation, mais d'essayer d'agir après l'inflammation sur la réparation. Alors pour l'instant, ça reste un espoir, mais des molécules sont en cours d'étude, d'autres aspects techniques sont en cours d'étude aussi, et on a de bons espoirs pour penser que dans les années à venir, des moyens seront mis à disposition, non pas pour protéger, mais pour réparer.
Merci beaucoup pour toutes ces explications, et excellente journée à vous, professeur Jean Pelletier. Évidemment, pour avoir des informations complémentaires, je renvoie les auditeurs vers le site de la Fondation ARCEP. Nous mettrons le lien sur la page de l'émission. Et avant de se dire tout à fait au revoir, c'est Jarabe de Palo, je regarde Didier Bleu pour... oui, il acquiesce à peu près l'accent, hein. Bon, c'est pas tout à fait ça, qui nous accompagne avec Depende.
El blanco sea blanco, que el negro sea negro. Y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Y aquí estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado. Uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Y con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, y todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. ¿De qué depende? Según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe toujours présente chaque jour pour fabriquer et réaliser votre émission. Ophélie Lassène, Louise Caledec et Didier Bleu. Et on se retrouve demain dans Priorité Santé. On se retrouve demain. D'ici là, toujours les mêmes consignes. Surtout, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
Priorité Santé avec Suno Assurance, qui vous invite à respecter les gestes barrières pour préserver votre santé et celle de ceux qui vous sont chers. Suno Assurance, notre métier, l'assurance. Autour